Bonjour à tous et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, comme tous les dimanches, nous reviendrons sur la semaine avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et dès 13h30, comment défendre la laïcité? Le printemps républicain en a fait sa vocation et son combat. L'association est au cœur de nombreuses polémiques, accusée de promouvoir un intégrisme laïque, d'incarner une radicalisation de la laïcité. L'expression est d'Emmanuel Macron. Erreur funeste du printemps républicain, d'après le président de la République, ne parlait que de l'islam. Invité du grand face-à-face, Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques, fondateur du printemps républicain. Nous ouvrirons le débat avec lui dès 13h30.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et on démarre avec le duel Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va commencer évidemment avec le mouvement social, mouvement qui se durcit, porté par la bataille du rail et la grève à la SNCF. Écoutez le Premier ministre Édouard Philippe, il était l'invité de France Inter jeudi dernier.
Je vous confirme que nous sommes déterminés à mettre en œuvre cette réforme. Je préférerais que la grève, respectable au sens où une liberté constitutionnelle doit être respectée, je préférerais qu'elle ne dure pas. Parce que je pense à tous ceux qui ont besoin du train pour aller travailler, être libre d'aller et de venir. Je vous fais observer du reste que c'est une autre liberté constitutionnellement garantie.
Les libertés et d'un autre côté la détermination, Natacha.
Oui, ça c'est la rhétorique classique dans ce genre de mouvement où on est dans une guerre de position puisque la question est de savoir de quel côté va basculer l'opinion. Or ce qui est très frappant dans ce conflit, c'est que alors qu'on nous a présenté depuis un an le pays comme ayant accueilli avec des vivas l'idée de réforme qui était enfin portée par Emmanuel Macron, mais on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Ce qu'on aurait pu comprendre d'ailleurs en regardant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, hein, grosso modo 24% pour Emmanuel Macron, 20% pour François Fillon, ce sont ceux qui adhéraient à cette conception de l'adaptation à la mondialisation néolibérale. Et c'est ceux-là qu'on retrouve à peu près qui soutiennent la réforme. Et en face, on a des...
Oui, mais regardez la réforme du Code du travail qui est passée sans heurts, en tout cas avec beaucoup moins de difficultés que ce qu'on aurait pu imaginer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de mobilisations qui s'agrègent. Raphaël Glucksmann.
Déjà, la réforme du Code du travail faisait partie et était même l'emblème du programme d'Emmanuel Macron. Donc il y avait une forme de inéluctabilité intégrée par la population à sa mise en pratique, à sa mise en place. Mais surtout, je pense que c'est l'accumulation d'une forme d'arrogance qui aussi a beaucoup réveillé les opposants.
Pourquoi l'arrogance ?
Il suffisait d'écouter votre antenne cette semaine, le matin, sur France Inter. On avait l'incarnation de cela. Quand on entendait Monsieur Attal, par exemple, venir ici...
Gabriel Attal, député La République En Marche.
Donner des leçons
et porte-parole du parti.
Et symboliser une forme vraiment de morgue qui donnait envie à l'auditeur, même s'il pouvait comprendre le fond des arguments, de prendre sa carte à la CGT dans la seconde.
Ah bah l'auditeur est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce qui était intéressant, justement, en écoutant Gabriel Attal, c'était au micro de France Inter, il parlait de gréviculture. Le mot s'est imposé comme le mot de la semaine. On fait grève et on négocie ensuite. Ce serait ça la gréviculture. Il a raison, c'est une tradition française.
Il y a une tradition de grève en France, mais dans ce cas-là, on peut rétorquer qu'on impose un texte et ensuite on négocie. Enfin, je veux dire, l'attitude du passage en force du gouvernement là-dessus, à mon avis, a aussi précipité les choses. Mais il y a surtout une question de fond, qui est le rapport au service public, la notion de service public. Et moi, je suis convaincu qu'ils ont sous-estimé l'attachement profond des Français à cette notion de service public.
Natacha. Oui, et aussi le fait que les Français ne sont pas complètement idiots, c'est-à-dire que quand on transforme un établissement public à caractère industriel et commercial en société anonyme à capitaux non cessibles, c'est qu'à un moment donné, on se dit que les capitaux vont pouvoir devenir cessibles. C'est la logique. Mais surtout, je crois qu'il faut revenir longtemps en arrière pour comprendre comment on en arrive à cette situation. Et c'est cela qui permet de comprendre aussi pourquoi on a des posture beaucoup plus que du débat et une réflexion de fond. C'est tout simplement parce que cette réforme, même si elle n'était pas officiellement dans le programme d'Emmanuel Macron, elle y était par essence. Elle était déjà là. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà là depuis des décennies. En fait, quand Lionel Jospin et Jacques Chirac sont allés en 2002 signer le texte de conclusion du sommet européen de Barcelone, il y avait dans ce texte tous le programme d'Emmanuel Macron et qui petit à petit n'a pas...
Enfin, le programme ferroviaire.
Non, de tout le programme.
En général.
Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas seulement la libéralisation des services publics, il y a la réforme des retraites et il y a la flexibilité du marché du travail. Tout cela a été accepté par les deux grands partis de gouvernement en France qui ont signé cela. Michel Barnier, à l'époque, qui était commissaire européen, avait signé un texte, un article qui parlait du grand secret de la présidentielle où il expliquait que si on voulait avoir des débats honnêtes dans cette présidentielle de 2002, il aurait fallu expliquer que ce texte allait présider aux destinées de la France. Donc nous en sommes aujourd'hui à cela, c'est-à-dire que nous sommes arrivés au pied du mur. On ne peut plus faire semblant de ne pas avoir signé ce texte. Mais comme pendant
mais
des
en
décennies,
2002, Emmanuel Macron était encore étudiant.
Oui, mais comme pendant des décennies, nous avons des hommes politiques qui n'ont pas admis cela, nous avons aujourd'hui quelqu'un qui, par mécanique, puisqu'il a adhéré profondément et beaucoup plus que les autres et plus ouvertement à la logique européenne telle qu'elle est définie depuis ces textes, eh bien, il est logique qu'il aille vers cette réforme ferroviaire et qu'il ne lâche rien.
Raphaël.
Il y a, c'est vrai, un lien clair avec les directives européennes, mais par exemple, l'ouverture à la concurrence, dont on doit débattre, à mon avis, l'ouverture à la concurrence ne signifie pas nécessairement l'abandon des statuts. Quand ils font des cheminots...
Curieusement, ça va toujours de pair.
Bien sûr.
Mais
parce
c'est
que,
étonnant.
Parce que ils continuent la logique de cette directive.
C'est-à-dire
que, voilà, mais donc,
elle est conçue pour cela.
Bien sûr. Mais ils vont au-delà d'elle-même dans cette logique-là. Et ils font des cheminots une cible parce qu'ils pensent que c'est une cible facile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mobiliser le reste de la population contre des avantages acquis.
Bien sûr. On utilise le statut des cheminots pour traiter la question de la libéralisation des services publics.
Et donc, à mon avis, dans le sursaut de l'opinion, il y a aussi le refus de cela.
Enfin, le sursaut de l'opinion, pour le moment, la bataille de l'opinion, elle n'est pas gagnée, elle ni n'est... d'un côté ni de l'autre.
C'est
divisé,
partagé.
L'opinion.
C'est très partagé,
mais c'est une nouveauté, puisqu'on nous a expliqué que tout passait comme une lettre à la poste auprès de l'opinion jusqu'ici. Mais moi, ce que je veux retenir, c'est que malheureusement, on n'a pas le grand débat qu'il faudrait sur justement cette notion de service public. Et je veux juste citer le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit « La priorité de cette réforme, c'est de transformer la SNCF pour la rendre plus compétitive » et même dégager des bénéfices.
Est-ce que ça... Non, mais c'est la question de la différence entre une entreprise et un service public. Nous sommes d'accord là-dessus.
Oui, mais sauf que c'est ça le débat.
Mais bien sûr qu'il est là le débat. Sauf que vous
mais
ne pouvez
vous
pas.
Avez l'air
vous
d'être
ne pouvez
d'accord,
pas avoir.
On va avancer dans le débat.
Juste une chose. Vous ne pouvez pas avoir ce débat-là si vous n'admettez pas que la construction de l'Union européenne telle qu'elle s'est faite depuis l'acte unique de 1986, justement, brouillait les cartes et essayait de détruire les services publics pour construire des entreprises chargées de faire du profit.
Mais pourquoi le dialogue aujourd'hui est-il impossible ? Après tout, il y a des syndicats, il y a un gouvernement et il n'y a pas de dialogue social.
Mais parce qu'il y a des gens qui acceptent cette logique de l'Union européenne depuis des décennies et qui tout à coup font semblant de découvrir les conséquences. Même les syndicats sont dans ce jeu-là. Alors que le peuple français a tout de même, la seule fois où il a été interrogé sur ces questions-là, répondu qu'il n'en voulait pas, c'était en 2005. Tout le monde s'est assis dessus.
Il avait apparemment dit oui à Maastricht. Mais
oui, mais quand la logique est apparue, là en revanche, il y a eu un non.
Bon, mais revenons en 2018. Convergence des luttes, c'est l'expression à la mode. Il y a donc plusieurs mobilisations, celle des cheminots dans certaines universités, les dockers. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une coalition de ces mouvements aujourd'hui et par ?
Moi, je pense qu'il y a une coalition des mécontentements. Maintenant que ces luttes se rejoignent pour refaire un mai 68 fantasmé, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire, et même je ne crois pas que ça se produira. Par contre, ce qui est certain, c'est que ne pas écouter ces mouvements, continuer à jouer au tennis le week-end, c'est à mon avis se préparer à de réels troubles et à une chute de popularité certaine.
Mais je pense que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que même si aujourd'hui le gouvernement reculait ponctuellement, ce que je ne crois pas, parce qu'encore une fois c'est un enjeu de survie pour lui, on se retrouverait dans cette situation qu'on vit depuis plusieurs décennies, à savoir que certes le gouvernement ponctuellement a reculé, mais qu'on sait que cette proposition ou une autre semblable reviendra sur le tapis, parce que c'est toute la logique du système économique et politique. Donc la question, c'est de savoir comment on offre, au-delà d'un simple mouvement social, une alternative politique pour refonder totalement le système sur lequel est construite notre société.
Un mot encore avant de tourner la page. Est-ce que c'est la fin de l'état de grâce, comme on dit pour Emmanuel Macron, Natacha?
Le concept d'état de grâce est un concept de journaliste politique, à mon avis, et l'état de grâce n'a jamais vraiment existé. Il y a un chiffre essentiel à citer aujourd'hui. Emmanuel Macron a 39% d'opinion favorable dans un sondage publié par Les Échos, ce qui ne signifie strictement rien. En revanche, derrière, il y a un chiffre beaucoup plus intéressant. 65% d'opinion favorable chez les cadres, 27% d'opinion favorable chez les classes populaires. Cet écart n'a jamais été aussi grand. Je pense qu'il nous raconte l'état du pays au-delà même de la personne d'Emmanuel Macron.
On revient en fait à la structure sociale de la carte électorale au moment des élections. Et donc c'est un vrai problème. Tout l'enjeu du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était de savoir s'il pouvait dépasser ce socle électoral dans sa politique et abolir cette lecture, qui est une lecture à peu près évidente quand on regarde la carte électorale, qui est une lecture de classe sociale.
Donc le président des riches ne doit pas jouer au tennis?
Il fait ce qu'il veut, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne doit pas prendre de haut cette colère.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
On quitte la France cette semaine aussi et ça se passait à Ankara. Le président turc Erdogan recevait en grande pompe Vladimir Poutine et le président iranien Hassan Rouhani. La triplette de fer, comme on dit, était réunie. Sommet consacré à la résolution du conflit syrien. Ils se sont engagés pour un cessez-le-feu durable. Écoutez le président turc Erdogan.
Nous partageons de nombreuses inquiétudes avec notre ami russe en Syrie. Nous croyons que l'avenir de la Syrie est trop important pour être laissé au projet des organisations terroristes comme Daesh ou les organisations armées kurdes. Dans ce cadre, nous allons poursuivre notre coopération en nous concentrant sur nos intérêts communs.
Recep Tayyip Erdogan, c'était mercredi dernier. Une photo de famille Erdogan-Poutine-Rouhani. Raphaël Glucksmann, cette photo de famille vous a alerté?
Oui, et en particulier celle qui précède la photo à trois, qui est la photo à deux entre Erdogan et Poutine, et les coups de canon, la garde à cheval, les sourires ravis face à la carte de la Syrie qu'on imagine. En fait, on croyait vivre au XXIe siècle, et bien on est en plein XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il se découpe un pays qui s'appelle la Syrie. C'est le résultat de tergiversation et de renoncement et d'abandon occidentaux. Et qu'est-ce qui se passe?
Erdogan
obtient des Russes qu'il fait ce qu'il veut au nord.
Et, au nord de la Syrie.
Au nord de la Syrie. Et donc,
il peut
bombarder les Kurdes.
Il veut pouvoir poursuivre ses opérations dans le nord-ouest de la Syrie, notamment dans l'enclave kurde d'Afrin.
Et son principal conseiller a reconnu que sans l'aide de la Russie, jamais il n'aurait pu reprendre Afrin. Et à contrario, ou vice-versa, ou en conséquence, Vladimir Poutine fait ce qu'il veut sur le reste du territoire de la Syrie. Et cette rencontre de deux autocrates assumés, c'est la bérésina de l'Europe. C'est d'abord une calamité pour les Syriens et pour les Kurdes, mais c'est la bérésina de l'Europe et des États-Unis dans la région.
Qui étaient les grands absents de la photo de famille.
Bien sûr, les grands absents de la photo de famille, exclus, et dont l'exclusion a été théorisée par les deux leaders. Et c'est par ailleurs l'affirmation, alors que tout le monde pensait qu'il y avait une rivalité entre les Russes et les Turcs extrêmement profonde, c'est l'affirmation d'une cohérence idéologique. C'est deux modèles autocratiques qui se posent comme des contre-modèles aux démocraties européennes, et ceci à nos frontières. Et c'est extrêmement dangereux pour nous.
Natacha.
Disons que vous faisiez remarquer, Ali, que les Occidentaux, en particulier les Américains, avaient auparavant essayé plus ou moins de découper la Syrie. C'est-à-dire qu'il y a eu là une politique absolument catastrophique. D'abord, en 2016, Robert Kennedy Jr. avait expliqué dans un article qui avait fait beaucoup de bruit le déclenchement de la guerre en Syrie et comment tout cela partait d'une affaire de gazoduc qui devait favoriser les intérêts du Qatar et de l'Arabie Saoudite et qui n'a pas été accepté par la Syrie. Et tout cela joue énormément dans le déclenchement de cette guerre. Ensuite, il y a eu de la part du secrétariat d'État américain un découpage du Moyen-Orient.
Je termine.
Une révolte populaire, vous savez, ça peut aussi se susciter, en tout cas se favoriser. On peut se greffer dessus et ça s'est déjà vu, je pense, dans l'histoire du monde. Simplement, le secrétariat d'État américain avait produit une carte de ce que devait être le Moyen-Orient selon lui, avec un découpage. Alors, il y avait un Kurdistan, il y avait différentes choses, mais qui étaient totalement irréalistes. C'est-à-dire qu'on est face à une reconstitution de blocs, parce qu'il y a eu un irréalisme des Américains qui ensuite ont abandonné en rase campagne les gens qu'ils prétendaient aider, à savoir les Kurdes. Et hélas, nous en sommes là aujourd'hui, et je pense que la seule solution, malheureusement l'Europe ne pèse plus rien là-dedans, et simplement la seule chose à faire, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire tout simplement d'essayer de commencer à soutenir les Kurdes. Pour le reste, il va falloir beaucoup de temps pour sortir de là.
Raphaël.
Non mais la lecture du conflit syrien, à mon avis, est complètement erronée. C'est pas une histoire de gazoduc, c'est l'histoire d'une révolution qui s'inscrit dans les révolutions arabes en général et qui a été réprimée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a abandonné nos deux alliés potentiels. Les opposants non-djihadistes à Bachar el-Assad d'un côté, et de l'autre, les forces kurdes. Les unes, on les a abandonnées à Vladimir Poutine, les autres, on les a abandonnées à Erdogan. Et ça, on va le payer, parce que ce qui se passe, c'est que la crédibilité de l'Europe est complètement en ruine.
On va le payer en quel sens ?
Et on va le payer dans ce sens que, un, Erdogan et Poutine vont être les hommes forts de la région, et deux, dans le fait que notre modèle, parce qu'il ne s'agit pas simplement ici de géostratégie, il s'agit aussi d'idéologie. Notre modèle politique, la démocratie...
Mais il est aussi question de frontières.
Oui, mais la
démocratie... Est-ce que pour vous, il faudrait par exemple accorder aux Kurdes un État ?
Non, mais il faut peut-être pas, mais en tout cas, il faut absolument les empêcher d'être massacrés par Erdogan.
Certes, mais notre modèle, et il est en effet, il repose sur une idéologie, et cette idéologie ne consiste pas normalement à aller déstabiliser des pays parce que on a une certaine vision de l'imposition, certes de la démocratie, mais on voit ce qui s'est passé depuis des décennies à cause de cette politique américaine.
Par contre, quand on établit des lignes rouges qui est l'utilisation des armes chimiques et qu'ensuite on ne fait pas appliquer ces lignes rouges, eh bien le résultat, c'est que des puissances comme la Turquie et la Russie remplissent le vide et établissent leurs lois.
Mais le vide, il a été fait déjà dès 1991 avec la politique de Bush vis-à-vis de l'Irak et ensuite confirmée en 2003. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de tout cela. Alors certes, il y a la révolte, il y a les printemps arabes, mais les printemps arabes ensuite ont été vécus de différentes manières dans les différents pays, suivant des questions aussi de géopolitique que vous ne pouvez pas nier, vous ne pouvez pas faire semblant qu'il n'y ait pas aussi cela.
Un mot, Raphaël, avant d'ouvrir le débat de la semaine.
Je ne nie pas ce que je remarque, c'est que Vladimir Poutine et Erdogan, tous les deux incarnent une forme de contre-modèle. Par ethnocentrisme, on n'a jamais voulu considérer ces régimes pour ce qu'ils représentaient idéologiquement. Or, leur idéologie fondamentale, c'est absolument de refuser les principes de la démocratie libérale. Et donc, ils vont pousser leur avantage. Et en Europe même, il y a de plus en plus d'adeptes de ce type de rapport au monde qui est un rapport profondément autoritaire et vertical.
Merci à tous les deux. Le grand face-à-face continue avec maintenant le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Comment et jusqu'où défendre la laïcité ? Le printemps républicain est au cœur de ce combat et aussi de nombreuses polémiques. En pointe et ferme sur les principes pour les uns, les autres lui reprochent un intégrisme laïque, une obsession pour les sujets qui concernent l'islam. Pour y voir plus clair, France Inter ouvre le débat ce dimanche avec notre invité. Le journal Le Monde l'a décrit comme un gladiateur de la laïcité. Il est professeur de sciences politiques, cofondateur du printemps républicain. Bonjour Laurent Bouvet.
Bonjour.
Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Intégrisme laïque, radical de la laïcité, là je cite le président de la République, Emmanuel Macron. Comment recevez-vous ces critiques ?
Alors, sur la critique du président de la République, il n'est pas sûr et certain qu'elle s'adressait au printemps républicain, contrairement à ce que
vous,
certains
voulaient. Vous n'êtes pas sensibilisé ?
Non, pas spécialement. D'abord parce qu'on n'en sait rien sur le fait de savoir s'il nous l'a adressé ou pas. Et puis surtout, j'aimerais bien savoir ce que c'est que la radicalisation de la laïcité. C'est-à-dire que le mot radicalisation a quand même dans notre... époque, dans le contexte qu'on connaît, un sens assez précis, malheureusement, et l'appliquer à la laïcité me paraît légèrement abusif. Donc je
intégrisme laïque ? Là, pour le coup, l'expression de Jean-Louis Bianco.
Non plus. En tout cas, je ne me sens pas, et le printemps républicain, je peux le parler au nom du printemps républicain en la matière là, se sent pas du tout intégriste. On est plutôt sur ce que Elisabeth Badinter, au micro de France Inter d'ailleurs, si je me souviens bien, avait appelé la ligne de crête, c'est-à-dire entre une manipulation politique de la laïcité à laquelle se sont livrées un certain nombre de forces politiques, Front National bien sûr, de longue date, Nicolas Sarkozy aussi en son temps, on se rappelle la manière dont il avait utilisé ce terme pendant son quinquennat. Et puis, donc d'un côté, et puis de l'autre côté, disons l'oubli, l'abandon, l'indifférence, voire l'inconscience de certains, en particulier à gauche, puisque le printemps républicain se réunit des gens qui viennent plutôt de la gauche, même si c'est un peu plus large que ça maintenant.
On vous dit proche de Manuel Valls, par exemple.
Oui, certains sont effectivement proches de Manuel Valls au printemps républicain, d'autres sont à la France insoumise, d'autres sont très macronistes, donc on a un peu de tout. Et puis certains sont même proches du Parti Socialiste tel qu'il est encore aujourd'hui. En tout cas, de l'autre côté, ligne de crête entre donc les manipulations, si on peut dire, les instruments. Et puis de l'autre côté, donc cette manière un peu soit d'oublier, soit de passer par perte et souvent fracas la laïcité en disant que la laïcité pose un problème. Alors à qui, pourquoi, à une intégration de l'ensemble des croyants et des non-croyants dans un commun, ce qu'elle définit au-delà de
exemple
des
pour
éléments
qu'on comprenne
juridiques.
Bien.
Ben, par exemple, si vous voulez, quand on considère que la laïcité et notamment la loi de 1905, et que la laïcité, parfois, est réduite à la loi de 1905, alors qu'elle est bien plus large, et le mot, vous le savez, ne figure pas dans la loi, ce qui est évidemment paradoxal, mais enfin, certains veulent
Article
la réduire.
Article 1 de la loi, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le
Exactement.
Libre exercice des cultes, voilà. En l'occurrence, il n'est pas question du mot de laïcité.
Non, la laïcité ne figure pas dans la loi, hein. Elle était à l'époque, déjà, c'était déjà un mot utilisé à l'époque, mais elle ne figure pas à dessein dans la loi. Mais dire que, par exemple, cet article 1, c'est la liberté religieuse, la coexistence des religions, et que l'article 2, la neutralité de l'État, la séparation, l'article sur la séparation, est simplement un État et un service public au sens général qui doit être neutre vis-à-vis des citoyens, des usagers, dire ça et réduire la laïcité à ça, c'est ne pas comprendre le sens de la laïcité comme un élément clé de notre commun français, c'est-à-dire de ce qui fait que nous sommes français et pas allemand, anglais, italien ou autre chose. Et là, il y a quelque chose, et c'est là-dessus que si on a des débats printemps républicain contre éventuellement d'autres personnes dans le débat public, c'est pas sur les définitions juridiques, c'est pas sur l'histoire, sur est-ce que Aristide Briand était plus ou moins ceci ou cela. Moi, j'ai eu ces débats avec Jean Bobéro, je fais un débat, on va le faire par écrit sur plus assez longtemps avec Alain Bergougnou, etc. Ça sera publié. Enfin, tout ça, c'est
donc
très
avec
intéressant.
Avec des historiens, Jean Bobéro,
voilà,
historien
de la laïcité,
qui avait théorisé la catho-laïcité pour définir
Exactement,
la laïcité française.
La laïcité apaisée, enfin, tout un tas de choses. Non, c'est pas ça qui est important. C'est le débat politique. Le débat de citoyens qui est légitime sur le sujet et qu'il faudrait qu'on ait davantage. C'est pour ça qu'il faudrait aussi que le président de la République et d'autres en prennent leur part et s'y investissent parce que c'est la définition de ce que nous sommes, de notre identité commune de français. Voilà, c'est ça la laïcité, un rapport particulier aux religions, un rapport particulier de l'individu à ses appartenances différentes, etc. Voilà, donc il y a tout ça qui est en débat et nous on défend l'idée que la laïcité c'est important, ce n'est pas un élément comme ça, simplement d'un système juridique parmi nous.
Natacha Polony puis Raphaël Glucksmann.
Ce qui est intéressant quand je vous écoute, c'est que la définition que vous donnez de la laïcité est celle que, pour ma part, j'ai toujours défendue et je pense qu'il est absolument essentiel de ne rien abandonner de cela, c'est-à-dire de rappeler en permanence qu'il y a la lettre de la loi de 1905, mais que la laïcité, en effet, ne se réduit pas à ça et que c'est un principe fondateur, un pilier de la République. Et pour autant, donc nous nous rejoignons totalement là-dessus et je me demandais ce qui me gênait dans le débat tel qu'il est posé actuellement autour de cette question-là. Et je me dis, quand je vous entends dire que c'est un débat politique, que peut-être l'erreur a été de fonder un mouvement qui s'appelait le Printemps républicain et qui a donné l'impression que la laïcité, justement, pouvait être défendue par un courant idéologique, alors que la lutte doit consister à faire comprendre à l'ensemble de la société, et en particulier à ceux qui l'ont oublié ou qui se laissent gagner par une version totalement libérale et anglo-saxonne de la tolérance et de la coexistence des religions, eh bien, il fallait leur rappeler que la laïcité est bien ce pilier de la République.
Laurent Bouvet.
Alors, il y a deux choses. D'abord, le printemps républicain n'est pas le printemps laïque. On ne l'a pas appelé printemps laïque pour une bonne raison, c'est qu'on ne parle pas que de laïcité. Même si, dès l'origine, il y a deux ans, hein, puisque le printemps républicain a deux ans, on a été très rapidement conduit à parler de laïcité parce que c'était un point d'entrée qui nous paraissait trop faible ou trop instrumentalisé, dans le sens où je le disais tout à l'heure, soit trop faiblement défendu, notamment par la gauche, dans le débat public. C'est pour ça qu'on est rentré par ce point-là. Et ce que vous dites est un peu étrange, parce que vous dites, finalement, c'est quelque chose que tout le monde devrait défendre. quelque chose dont tout le monde devrait s'emparer. Il n'y a pas à créer un mouvement de citoyens ou d'autres formes. Il y a beaucoup d'associations qui défendent la laïcité des anciennes. Il y a des mouvements laïques très très importants d'éducation populaire. On peut penser à la franc-maçonnerie. Enfin, on peut penser à tout un ensemble d'éléments, y compris d'ailleurs au sein des religions. Il y a des gens plus ou moins laïcs qui défendent des visions laïques de la religion. C'est étrange de dire que finalement, on n'aurait pas à créer un mouvement particulier pour remettre dans le débat, non pas une vision qui serait clivante, parce que la vision qu'on défend précisément est une vision, cette idée de la ligne de crête, c'est précisément quelque chose qui doit permettre de rassembler un certain nombre de gens qui ne sont pas d'accord sur la laïcité par rapport aux usages qui en avaient été faits, notamment, je pensais à Nicolas Sarkozy tout à l'heure, ou aux usages trop libéraux qui en sont faits. On peut penser, par exemple, à un certain nombre de polémiques autour de l'Observatoire de la laïcité.
La question, c'est est-ce que le printemps républicain reste sur cette ligne de crête-là? Et il y a un mot qui n'est pas apparu entre nous jusqu'ici, mais qui constitue quand même la majeure partie de votre combat, c'est celui de l'islamisme. De l'islamisme politique. Et donc on est tous d'accord autour de cette table pour définir l'islamisme comme un ennemi, une idéologie à combattre. La question, c'est comment on le combat. Et quand on veut combattre une idéologie, il s'agit au maximum d'empêcher les gens d'y adhérer et de ne pas les rejeter dans les bras de cette idéologie. Donc moi, ma question, c'est comment on peut aboutir à ce résultat qui est le combat contre l'islamisme politique en menant des campagnes sur Internet contre des humoristes, par exemple, dont on juge les propos pas à notre goût, comme Yacine Bellatar, ou quand, pas vous personnellement, mais quand des membres du Parti Républicain lancent des campagnes contre une chanteuse de télécrochet comme Ménel et Tissem. Est-ce que là on fait pas le contraire de ce qu'on, enfin quelque chose de contre-productif pour l'objectif qui est commun, c'est-à-dire la défense de la laïcité et le combat contre l'idéologie islamiste, c'est-à-dire de rejeter toute expression d'une forme de religiosité dans l'espace public qui n'est pas contraire à la laïcité, c'est la neutralité de l'État, dans les bras de l'islamisme. On fabrique en gros des adeptes de Tariq Ramadan là où il n'y en a pas nécessairement.
Laurent Bouvet.
Si le printemps républicain faisait des campagnes contre des gens que vous avez cités, la chanteuse Ménel, l'humoriste Yacine Bellatar, les rejetant et en les repoussant vers l'islamisme, ce que vous dites serait vrai. Le problème, c'est que, et ça me donne l'occasion... Ils ont pu le vivre comme ça. Ils ont pu aussi vouloir absolument montrer, à l'aide notamment de certains confrères dans les médias, c'est ça aussi le problème, que le printemps républicain faisait des campagnes de harcèlement. Ce qui est faux pour des gens normalement et objectivement raisonnables, qui peuvent regarder notamment, si on prend l'affaire Ménel, le communiqué qu'a fait le printemps républicain en expliquant que, en dehors de constater qu'elle avait fait quelques tweets complotistes, comme l'a montré l'organisme Conspiracy Watch, le printemps républicain n'avait strictement rien à dire sur cette affaire. Et que, finalement, cette jeune fille...
Mais avouez que vous aimez la polémique, notamment sur Twitter, et que vous n'hésitez pas à manier l'ironie ou l'invective régulièrement.
L'invective, non, certainement pas. L'ironie, ça se peut, oui, ça c'est sûr. Moi, c'est assez étrange, parce que je suis assez peu présent sur Twitter. Je suis beaucoup plus sur Facebook et on me reproche Twitter, ce qui est très bizarre. Mais peu importe. Le printemps républicain s'exprime par les réseaux sociaux et d'autres moyens, mais défend cette ligne de crête et ne harcèle personne. La seule fois où on a effectivement montré et voulu vraiment le dire de manière très très importante qu'il y avait un problème et où on n'a pas lâché l'affaire, c'est sur Mehdi Meklat. Voilà. C'est pas sur Yacine Bellatar auquel on n'a rien de particulier à reprocher. Moi, il m'a invité à son émission. J'ai juste dit, à la manière de Raphaël Enthoven, qui a eu aussi à le dire, simplement que moi, je n'allais pas dans une émission. Il fait cette émission dans son théâtre de 10 heures, où il est en fait jugé parti, puisqu'il anime l'émission.
Bon, mais il y a les polémiques de toute façon.
Donc moi, je.
Et il n'est pas là pour vous répondre.
Yacine Bellatar, c'est pas ça la question.
Vous ne répondez pas à Raphaël sur l'efficacité.
L'efficacité. Non, il y a deux choses. Il y a ce qu'on nous reproche et l'efficacité. Yacine Bellatar, ce que moi je lui reproche en particulier, notamment à l'occasion de cette invitation, c'est qu'il a une manière de, disons, de participer au débat public.
Se défendre.
Donc, bah, oui, mais il a une manière de participer au débat public qui n'est pas acceptable pour moi.
Peut-être que ce n'est pas une campagne.
Je ne sais pas s'il est islamiste ou pas.
Non, mais
je l'ai jamais.
Enfin, il suffit de le lire pour le voir.
Mais je n'en sais rien. Je connais pas assez. J'ai jamais vu un de ses spectacles.
Moi,
les gens disent qu'il est islamiste. Bon, bah, il est pas islamiste. On est heureux pour lui. D'ailleurs, il a fait un entretien récemment où il critiquait les islamistes, d'après ce que j'ai compris. On m'a envoyé ça. J'ai pas. Bon, voilà.
Mais en fait, l'idée, c'est on est tous pour un printemps républicain. C'est ça l'idée. Mais pour combattre efficacement l'islamisme, il faut aussi avoir des propositions positives pour susciter une forme de printemps républicain. Or, la manière dont on voit apparaître le printemps républicain dans l'espace public, c'est pas sur ces mesures positives qui visent à abattre, puisque vous êtes proche de Manuel Valls. Manuel Valls parlait des ghettos qui s'étaient constitués sur le territoire français et d'une forme d'apartheid, c'est ces mots. Alors même moi, je n'emploierais pas le mot d'apartheid, mais en tout cas de ghetto. Et donc, le printemps républicain, il ne va pas être suscité juste par une politique de résistance à l'idéologie islamiste. Il faut, pour combattre cette idéologie, proposer un nouveau contrat civique, un nouveau contrat social, un nouveau contrat politique autour de la laïcité de la République.
Oui, bah c'est ce qu'on fait, enfin c'est ce qu'on propose. Les textes qu'on fait sont pas nécessairement lus, on préfère nous lire et lire des gens qui se réclament de nous sur Twitter. Bon,
enfin, on est ravis de vous écouter et de vous interroger, donc d'y voir plus clair.
Ce que vous dites est une évidence. Quand on fait, c'était il y a un an, début avril l'année dernière, pendant la campagne, on fait le printemps de la liberté des femmes. On avait un peu plus de 20 femmes sur scène, qui sont venues nous parler des femmes de différents pays, qui sont venues nous parler de la manière dont elles luttent pour la liberté des femmes. C'était pas sur l'égalité homme-femme, c'était sur la liberté des femmes. Les médias, ça les a pas beaucoup intéressés. On a eu les représentants de 3 candidats qui sont venus nous faire leurs propositions en matière donc de liberté des femmes, de féminisme. On a fait toute une journée, ça n'a pas beaucoup intéressé les médias. Les médias ont été plus intéressés dans la journée du début janvier, toujours Charlie, qui avait une plus grande ampleur. Donc on mobilise des citoyens sur un certain nombre de questions.
Natacha.
On n'est ni un think tank, ni une revue ou un centre d'études intellectuelles. Donc, les propositions, elles existent, on peut les faire les uns et les autres. Moi, j'ai écrit des livres, si vous lisez la conclusion de l'insécurité culturelle, je propose un certain nombre de pistes. Bon, voilà, les choses sont sur la table, après.
En fait, on perçoit qu'il y a une sorte de mélange des genres qui empêche, et je suis d'accord avec Raphaël, une efficacité de votre mouvement. La proximité, par exemple, avec Manuel Valls, qui, lui, met en avant, de façon, j'allais dire, extrêmement farouche et très politique, les sujets que vous portez derrière, interdit, là aussi, que votre mouvement soit réellement audible au-delà d'une certaine frange. L'un des combats aujourd'hui, c'est non seulement l'islamisme, l'idéologie politique qu'elle incarne, mais aussi la porosité entre le gauchisme culturel et cette idéologie islamiste qu'on retrouve, par exemple, dans la pensée d'Edoui Plenel, c'est-à-dire cette idée que les musulmans seraient les nouveaux damnés de la Terre. Or, en étant farouchement arrimé à un homme politique qui a une histoire politique, qui a des positions notamment sur les questions sociales et économiques, vous vous empêchez de penser pour l'ensemble de la société et pour tout le prisme politique.
Laurent Bouvet.
Êtes-vous sûr, Natacha Polony, que c'est le printemps républicain qui est arrimé à Manuel Valls, c'est que c'est pas
Manuel Valls.
Mais alors vous êtes dramatiquement instrumentalisé, Laurent Bouvet.
Une volonté d'un certain nombre de détracteurs qui, dans le combat politique contre Manuel Valls, qu'on a vu ces dernières années, ont tout fait dès que le printemps républicain s'est constitué pour dire Manuel Valls, qui n'est pas membre du printemps républicain. Et encore une fois, il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord avec Manuel Valls, et moi je ne suis pas d'accord avec Manuel Valls sur un certain nombre de sujets, notamment sur l'interdiction du voile à l'université.
Oui, mais si ce n'est que ça, il y a encore une fois toute la question économique et sociale.
On ne parle pas de la question économique
la laïcité
et sociale.
Est liée aussi à la vision que l'on a de la nation, donc à la vision que l'on a du système économique et de la possibilité pour une nation de perdurer dans ce système
circuler
économique.
La parole.
Voilà, je précisais juste
Laurent
ça.
Laurent Bouvet puis Raphaël Glucksmann.
Oui, donc le fait qu'on veuille à tout prix, c'est pas une honte non plus, moi j'apprécie beaucoup Manuel Valls, c'est pas un problème, mais le fait qu'on veuille à tout prix nous caractérisé comme l'association, le parti, je ne sais quoi, de Manuel Valls, ça fait aussi partie des conditions du débat. On n'a pas à s'en défaire et à faire des communiqués pour dire « Ah, mais non, on n'est pas d'accord avec Manuel Valls, c'est pas la question. » Simplement, voilà, ça fait partie du débat public. Après, en deux ans, vous m'invitez gentiment pour parler du printemps républicain. En deux ans, cette association, parce que vous parlez d'efficacité dans le débat démocratique, dans la société civile. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une association. De citoyens. Assez thématique.
Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est, au-delà même du printemps républicain, oui, Laurent Bouvet, votre conception de la laïcité, comment vous la défendez, jusqu'où, et comment répondez-vous à ceux qui vous reprochent de ne parler que de l'islam, d'être obsédé par l'islam, d'être obsédé pas seulement par l'islamisme, mais par l'islam en général et le voile en particulier.
J'ai jamais parlé de l'islam dans aucun de mes livres, notamment. Donc, cette obsession doit être récente.
Fantasmée.
Et je ne prépare pas de livre sur l'islam ou l'islamisme. L'islam n'est pas un sujet pour moi, je suis pas du tout spécialiste et je ne parle jamais de l'islam. Non, l'islamisme comme idéologie politique, puisque ça c'est plutôt mon domaine, en plus de comme enseignant et comme chercheur, le combat contre l'islamisme et le combat pour la laïcité se recoupent en partie, pas totalement. Et ça peut être des choses un petit peu différentes aussi. Alors, pour aller très vite, la conception que j'essaie de mettre en avant et qui est celle du printemps républicain de manière générale, sur la ligne de crête, c'est une conception effectivement de la laïcité républicaine. Et je suis d'accord avec vous, Natacha Polony, pour dire que ça va au-delà de la question simplement de la relation à la place de la religion dans la société. C'est une question, si on parle de la laïcité, effectivement, on parle d'un ensemble républicain qui induit une conception de la nation, une conception qui est la nôtre, manifeste du printemps républicain de mars 2016, une conception civique, une conception par la citoyenneté, par le contrat politique.
Une conception de l'identité française ?
Oui, de l'identité nationale française,
alors,
civique.
Est-ce que vous pourriez la définir ?
Et non pas organique ou ethnique, contrairement à celle qui peut être avancée par ceux que l'on appelle, et qui sont quand même les gens auxquels on s'oppose et contre lesquels, moi, même avant le printemps républicain, j'ai essayé de poser un certain nombre de jalons, qui sont, disons, tributaires d'une conception identitaire. Au sens là qui est une dérive de l'identité, c'est-à-dire de concevoir par exemple la nation française comme une nation blanche, chrétienne, occidentale, qui ne peut pas se détacher par une quelconque volonté, par un lien particulier à l'histoire, de cette idée. Pour moi, la France, c'est la République, notre Royaume de France, de Péguy, si vous voulez. Donc il y a une continuité, il y a un héritage judéo-chrétien, enfin on peut développer, mais c'est aussi un contrat, c'est aussi un destin, c'est aussi une volonté commune, c'est ce que j'appelle le commun. Et ce commun est constitué avec un pilier central, si on veut être simple, qui est la laïcité. Voilà.
Mais là-dessus on est d'accord. Et c'est ce commun qu'il faut redéfinir, mais le problème, c'est que le commun, en l'occurrence, et quand vous avez mentionné vous-même, on peut y revenir, sur le concept d'insécurité culturelle qui, à mon avis, est extrêmement intéressant, le problème, c'est que cette insécurité culturelle qui est liée à l'effondrement du commun, justement, qui est liée à l'effondrement d'une conception commune de ce qu'on peut être ensemble, eh bien, cette insécurité culturelle et cet effondrement du commun, ils ne sont pas liés que à la présence de l'islamisme dans l'espace public. Il y a la mondialisation, il y a la faillite
dans mon livre, l'islamisme occupe très peu de place.
Oui, mais c'est ça. Et dans le discours du printemps républicain, il
j'aimerais qu'on prenne des exemples très concrets.
C'est ça,
j'aimerais qu'on prenne des exemples très concrets pour que nos auditeurs nous comprennent.
L'islamisme, qui est une lutte idéologique contre l'islamisme très importante.
Oui, des exemples concrets.
N'occupe pas, certainement pas, tout l'espace de l'expression du printemps républicain. On nous interroge, vous le faites à votre tour, on nous attaque là-dessus, et beaucoup des entrepreneurs identitaires qui sont liés ou qui sont eux-mêmes liés à l'islamisme d'une manière ou d'une autre, peu importe, nous attaquent là-dessus en nous sommant sans arrêt de prendre position, en disant qu'on harcèle, etc. C'est cet effet de ce qu'on appelle un effet de halo qui joue un rôle, je le sais, la communication
prenez
politique.
Prenez vos comptes Twitter et vos comptes Facebook.
Regardez nos comptes Twitter et j'invite les gens qui nous écoutent à le faire.
Non, ils le feront. J'aimerais qu'on prenne des exemples extrêmement précis. Est-ce que défendre la laïcité, ça implique par exemple un certain nombre d'interdits ? Interdit par exemple de présenter une crèche dans un établissement public pour vous ?
Non, la crèche est interdite, ça c'est très précis, dans les lieux où il y a du service public, sauf quand il y a une tradition culturelle comme les Santons de Provence, etc. Sinon, les crèches dans les mairies, dans les lieux publics,
par exemple,
comme les croix sur le monument, dans le square lieu public de Plouay-Hermel, c'est interdit, c'est l'article 27 de la...
Oui, le Conseil d'État.
Voilà,
a tranché,
de la loi 1905.
Il y a non, mais je vous parle de conviction. Vous pourriez dire que c'est la loi, mais que.
Voyez, par exemple,
en changer.
Un petit exemple simple pour dire, pour pas l'islamisme. Je parle tout le temps de l'islamisme. Je fais un article, un entretien, pardon, dans Le Figaro. Sur la croix de Ploermel, où j'explique, voilà, la décision du Conseil d'État, c'était juste après, le printemps républicain a pris d'ailleurs position là-dessus en disant, c'est une décision logique, on regarde la loi de 1905, et c'est, voilà, et ça s'applique, la laïcité s'applique à toutes les religions, même s'il y a un problème particulier avec l'islam, qui n'était pas présent sur le territoire métropolitain en 1905, il y a des problèmes sur les édifices qui ne sont pas exactement les lieux de culte, on peut rentrer dans les détails juridiques si vous voulez, bref, il y a tout un ensemble de questions. Je fais ça, j'ai immédiatement, tout le monde me dit, ah, il parle du catholicisme, pour ne pas parler l'islamisme, parce qu'en fait, il critique quand même l'islamisme, donc ça a plutôt la partie traditionnelle, gauche, etc.
Et ouais, puis, c'est
oui, oui, et les catholiques à droite, Figaro, me disent, en fait, vous dites ça, mais c'est parce que vous avez peur de dire les choses sur l'islamisme. Donc si vous voulez, la ligne de crête, elle est là. Voilà, moi, je suis là. Et moi, je dis des choses cohérentes sur l'ensemble de ce que j'écris, des positions, et c'est des positions collectives, alors parfois, je ne suis pas tout à fait d'accord exactement à la virgule près avec ce que dit le printemps républicain, parce que nous sommes véritablement un collectif, et ça aussi, en deux ans, c'est un succès, parce que dans ce milieu laïque, il n'y a pas beaucoup de collectifs qui fonctionnent de cette manière, il y a beaucoup de personnalités et d'égo. Moi, je n'en suis pas. Moi, j'ai apporté ma pierre. Voilà. Donc, après, on peut dire, oui, mais vous n'avez pas de succès, etc. Trouvez-moi un mouvement en deux ans qui fait parler de lui de cette manière, de manière assez polémique, hein, je le regrette parfois, mais qui fait avancer aussi un certain nombre de sujets.
Croyez-vous vraiment que la question soit d'avoir un mouvement ? C'est-à-dire que je pense qu'on oublie une
fois de plus. On va devoir en rester là, malheureusement, Natacha, puisque l'émission se termine.
La réponse est oui, je pense que c'est important de créer un mouvement de citoyens, parce que les partis ne sont plus capables de mobiliser sur ces questions de manière efficace. Oui.
Mais la question, c'est de l'efficacité dans ce mouvement. Moi, vous pouvez créer tous les mouvements que vous voulez, mais comment on combat l'islamisme ? On combat en asséchant le
combat idéologique, terme à terme, en défendant la ligne de crête, voilà. Et en ne versant pas d'un côté ou de l'autre.
On ne vise pas, par notre action, à donner plus d'adeptes à une idéologie qu'on combat. Or, il faut faire très attention quand on s'attaque à des gens dont les positions peuvent nous déplaire, mais qui ne sont pas reliés à l'islamisme politique.
Je suis d'accord avec ça, mais on ne le fait pas, donc je ne peux pas vous dire le contraire.
Bon, c'est loin d'être la fin du débat, mais c'est en tout cas la fin de l'émission. C'est frustrant, mais le grand face-à-face se termine. Merci Laurent Bouvet d'avoir été notre invité. Natacha Raphaël, je vous dis à dimanche prochain. Merci à Ophélie Vivier, à la réalisation, Claire Destacan, à la technique, Julien Michel. À suivre sur France Inter, Zoé Varier et sa journée particulière.